Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Hey les Band Geeks, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Band Geek Mafia sur les ondes de Radio G. Band Geek Mafia, c'est votre émission infoculture du mercredi soir de 19h à 20h. On se retrouve comme d'habitude pour des chroniques cinéma, séries télé, bandes dessinées, romans, de la musique. Bref, tout ce qu'on aime dans Band Geek Mafia. On va commencer ce soir tout en douceur avec un titre de Lilywood and the Prick, Down the Rain, sur Radio G. 101.5, la radio qui fait le point.
Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock?
C'est sûr que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec, il a la guitare. Il est sur scène, il crache, mais...
Si tu veux, bon, c'est simple, ouais. Le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache.
Il crache,
alors que le bon hard rock, bon, le mec... Il a la guitare,
il crache.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, ce sera une chronique musique. Avant de commencer, une petite question. Quel est le point commun entre ces trois artistes? Vous avez peut-être connu Stevie Wonder dans Part-Time Lover. Il y avait aussi Ben l'Oncle Soul avec Soul Man, dit The Four Tops avec It's the Same Old Song. Et j'aurais pu en citer encore bien d'autres, aussi bien Marvin Gaye que Corneille, le chanteur français. Tous ces artistes sont issus de la même maison de disques, la Motown, une abréviation entre Motor Town, la ville du moteur, en l'occurrence Détroit. L'histoire de cette maison de disques commence en 1959 avec son créateur Berry Gordy, qui s'inspire du succès d'une compagnie de disques installée à Chicago et qui est gérée par des Noirs. Il constate vite que la clientèle de cette maison de disques reste cantonnée à la communauté noire. Il comprend vite alors qu'il convient d'intégrer sa production s'il veut toucher le maximum de personnes. Et début 1959, il emprunte $800 à sa famille pour créer le premier label Tamla. Il commence à recruter certains artistes, mais malheureusement, par faute de moyens et de distribution, il est obligé en général de revendre les droits des artistes à d'autres compagnies. En 1961, il s'associe alors avec une de ses connaissances, un jeune chanteur et parolier nommé William Smokey Robinson, qui a fait quelques succès, principalement dans les années 1980. Les deux compères comprennent vite que le succès de la compagnie passe par un recrutement de nouveaux talents. Or, Gordy, comme Robinson, dispose d'une oreille très sûre et se trompe rarement dans leurs choix. Ils signent par exemple les Marvelettes, Marvin Gaye ou bien même Stevie Wonder. Producteur de premier plan, Gordy est surtout un gestionnaire génial. Il dirige son entreprise depuis sa maison, une petite maison à deux niveaux qui ne paye franchement pas de mine. Smokey Robinson se souvient, nous avions transformé le garage en studio, la cuisine en salle de mixage et l'escalier en mini cabine d'enregistrement. D'autres labels complètent alors la Tamla. Gordy, Soul, VIP. Mais tous se regroupent sous une même bannière, celle de la Motown. Avant de poursuivre l'histoire de la Motown, je vous propose d'écouter un de leurs titres, les Pointer Sisters, I'm So Excited, sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. We'll put all of the things aside. Le succès exceptionnel de la Motown ne se dément pas tout au long des années 1960. Mieux encore, le son de la compagnie ne cesse d'évoluer. Sous la houlette de nouveaux venus comme le producteur Norman Whitfield, un groupe tel que les Temptations quitte les chansons typiques des débuts de la compagnie basées sur des ballades romantiques, mélodieuses, innocentes, pour un soul psychédélique au son très élaboré. Mais parfois, ces changements se font dans la douleur. Ainsi, Marvin Gaye, lassé de son image de crooner inoffensif, enregistre son chef-d'œuvre What's Going On en 1971. Or, Gordy ne veut pas en entendre parler. Pour pouvoir mettre en boîte son album, le chanteur devra donc l'enregistrer en catimini et menacer de quitter le label pour qu'il soit enfin distribué. Les innovations musicales d'un Stevie Wonder sont elles aussi emblématiques de la capacité de rebond, en tout cas l'adaptation des artistes de la Motown. De nouveaux venus complètent la collection de tubes de la compagnie. Les Supremes de Diana Ross obtiennent 9 numéro 1 entre 1964 et 1967, les Jackson 5 engrangent les numéro 1 les uns après les autres, et même Edwin Starr qui rencontre un succès considérable avec le courageux War dont on écoute un extrait. To me Pourtant, à y regarder de plus près, tout n'est pas si rose dans la famille Motown. En cette fin d'année 1960, la grogne gagne de nombreux artistes, conscients que les contrats qu'ils ont signés avec Gordy ne leur sont guère favorables. Si des grosses stars comme Stevie Wonder ou Marvin Gaye arrivent encore à renégocier leurs contrats, beaucoup d'autres préfèrent plier bagage. Mais les petits tracas de la compagnie ne sont rien au regard des troubles qui ravagent la ville. Au cours de l'été 1967, les ghettos de Détroit s'embrasent, 43 morts, plus de 7000 arrestations, des centaines de magasins pillés et les populations blanches de la ville qui déménagent en grand nombre. En 1972, Gordy décide alors de couper les ponts avec la grande ville du Michigan. Il tire par la même occasion un trait sur l'ambiance familiale qui régnait dans les studios. Fasciné par Hollywood, symbole de la réussite suprême à ses yeux, Gordy s'installe à Los Angeles et y produit des séries télé autour des Jackson 5, des films centrés sur Diana Ross. La fuite des talents s'accélère à partir de ce déménagement. Certes, de nouvelles recrues rencontrent un beau succès comme les Commodores de Lionel Richie, dont on écoute tout de suite un petit extrait de Easy. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning, that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Mais la flamme de la Motown pâlit incontestablement. En 1988, Gordy vend sa maison de disques à Universal pour 61 millions de dollars. C'est une des plus belles pages musicales de l'Amérique du XXe siècle qui se tourne à cette occasion. Je vous invite donc à découvrir les artistes et l'esprit de la Motown. On se quitte avec un dernier morceau de la Motown par son groupe le plus mythique, les Jackson 5, avec Blaming on a Boogie sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. I did.
on my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie.
Radio G.
101.5 FM.
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Bangkok Mafia et sur les ondes du 101.5 de Radio G pour une nouvelle chronique. Ce soir, on va parler BD. Je vous propose de commencer par le roman graphique de Zena Abishared, Le Piano Oriental. Nous sommes à Beyrouth en 1959. Nous découvrons Abdallah. Il se réveille de bonne humeur au chant du canari et dans la douceur familiale. Il doit aller retrouver son ami Victor devant le cinéma pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il est tout fier d'étrenner ses nouvelles bottines italiennes achetées la veille et qui font squitch-squitch à chacun de ses pas. Comme d'habitude, Victor attend son ami, qui arrive en retard. Ce dernier lui apprend une grande nouvelle. Il est invité par un certain Hoffman. Intéressé par son piano, celui-ci souhaite le rencontrer à Vienne. Victor, aussitôt, s'invite au voyage. Les deux amis vont ainsi faire un beau voyage et visiter Paris. Parallèlement, à Beyrouth, en 2004, nous retrouvons Zeina, 23 ans, qui a quitté la ville sur la pointe des pieds pour rejoindre Paris. Elle n'a cependant jamais vraiment quitté le Liban, qu'elle retrouve régulièrement. Élevée à travers les deux langues, l'arabe et le français, elle est encore aujourd'hui tiraillée entre ces deux pays et ces deux cultures. Le Piano Oriental de Zena Abishared est donc le récit inspiré de la vie de son ancêtre, inventeur d'un nouvel instrument de musique dans le Beyrouth des années 60. Folle tentative pour rapprocher les traditions musicales d'Orient et d'Occident, ce piano, au destin méconnu, n'aura vu le jour qu'en un seul exemplaire, juste avant que la guerre civile ne s'abatte sur le Liban. Une métaphore amusante et touchante de la rencontre de deux cultures, de deux mondes, qui cohabitent chez Zeina et dans son œuvre. L'auteur franco-libanaise nous fait donc découvrir le Liban en nous racontant sa propre histoire et celle de son arrière-grand-père musicien. Ainsi, long voyage des années 60 à nos jours, sans toutefois mentionner la guerre. Elle évoque avec tendresse son aïeul, l'inventeur du piano oriental, personnage haut en couleur, drôle et attachant. Je vous propose d'écouter l'auteur au sujet de son grand-père dans une interview diffusée sur la chaîne France 24 en 2015.
Après avoir fini l'écriture du piano oriental, quelqu'un qui l'a connu m'a raconté que sur sa carte de visite, il était écrit son prénom, son nom, et plus bas, inventeur. Bon, donc c'était oui, effectivement quelqu'un de passionné par la musique orientale, passionné de piano parce qu'il était aussi accordeur de piano, il était pianiste, compositeur, et pendant toute sa vie, il a essayé d'allier ces deux passions et de jouer la musique orientale sur son piano. Bon, ça semble complètement impossible au départ parce que le piano ne se plie pas comme on veut pour arriver à jouer le quart de ton. Donc il l'a monté et démonté plusieurs fois dans sa vie pour arriver à trouver une façon de faire plier, disons, son piano. Et il y est arrivé.
Grâce à la pédale, hein, c'est ça.
Voilà, il a remplacé la pédale de la sourdine par une pédale qui fait basculer toutes les cordes à l'intérieur. Et donc, quand on appuie sur une touche du piano, le marteau à l'intérieur, au lieu de taper exactement à l'endroit où il est prévu qu'il frappe, il frappe à côté. Donc, c'est toujours sur certaines notes, on entend cette petite note décalée du quart de ton.
Elle évoque également son amour pour son pays natal et la France, pour ces deux cultures si différentes et qui, à ses yeux, se complètent parfaitement, et à qui elle rend finalement un bel hommage. La musique, quant à elle, est omniprésente et habite complètement cet album, l'auteur usant et abusant d'onomatopées. Cette lecture musicale est accompagnée d'un dessin en noir et blanc et d'une mise en page parfaitement maîtrisée et originaux. De la petite vignette aux pleines pages, de la page muette à la page musicale, une multitude de détails et une bichromie profonde. Un récit oriental d'une grande finesse. La couverture est très belle. Je vous laisse la découvrir grâce à la description de son auteur.
Alors sur la couverture, on peut voir Abdallah Kamanja, qui est donc le double fictif de Abdallah Shahin, mon arrière-grand-père, père que j'ai malheureusement pas connu. Il plane un peu comme une image un peu fantomatique, mais tout à fait bienveillante, avec son grand sourire, derrière ce piano oriental qu'il a mis au point à Beyrouth à la fin des années 50. Et je suis accoudée à ce piano oriental pour vous raconter son histoire, et un peu la mienne aussi.
Le livre connaît un tel succès qu'en 2016, lors d'un festival à Tournai, Zena découvre un prototype du piano de son grand-père fabriqué par un facteur de piano belge. Elle propose alors à son ami, le pianiste Stéphane Tsapis, de créer des morceaux pour un spectacle qu'elle monte sur le piano oriental. En 2019, un disque voit le jour, reprenant les enregistrements de ses créations originales, interprétées sur le piano oriental d'aujourd'hui. Ce disque offre une nouvelle dimension à ce récit. L'édition de luxe avec ce CD est donc à découvrir. Je vous laisse écouter et donc savourer la bande-annonce proposée par l'éditeur Casterman.
Thank you.
poursuit cette chronique BD par une adaptation littéraire, celle du roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames, proposé par la dessinatrice et scénariste Agnès Maupré. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de lire le roman Au bonheur des dames, comme moi, voici un premier résumé très bref. Dans Paris qui change à vitesse grand V, Octave développe avec une vision carnassière son grand magasin. Mais la rencontre avec Denise Baudu, provinciale perdue face à la sauvagerie de la capitale, va tout changer. Agnès Maupré propose ici une adaptation belle et maîtrisée. Il ne s'agit pas de la première adaptation d'un roman de Zola. La Curée et Peaubouille ont été adaptés par le tandem Stalner-Simon chez Les Arènes. Pour Casterman, Agnès Maupré s'attaque au bonheur des nabes, qui est la suite de Peau de Bouille dans la saga des Rogon-Macquart. L'illustratrice Marcelo Avrez est une habituée des adaptations, après Les Contes du Chat Perché et un Tristan et Iseult décalé. Sur cette base de Zola, elle tape désormais dans le roman naturaliste avec bonheur. L'histoire. Denise Baudu arrive à Paris dans son contentat natal. Bousculée de toutes parts dans la rue par des gens peu soucieux des autres, elle a dans ses bagages ses deux frères dont elle a la charge. Pleine d'espoir, elle se dirige chez son oncle Baudu, qui lui avait promis du travail un an auparavant. Mais en un an, tout a changé. Le grand magasin de chiffon, Au bonheur des dames, prend toute la place et vole la clientèle des petits magasins du pâté de maison. L'oncle peut à peine subvenir aux besoins de sa propre famille. Sa femme et sa fille sont d'une maigreur cadavérique. En face, avec 19 rayons et plus de 400 employés, le grand magasin d'Octave Mouret est en train de dévorer le quartier. Alors que Denise doit trouver un emploi pour faire vivre ses deux frères, Octave Mouret, lui, explique ses vues à son second, Bourdoncle. Il veut s'agrandir encore et toujours, bouger, ne jamais rester immobile, ne se contenter de rien. Il compte sur la femme qui est au centre de ses visées. Même s'il vend aussi des draps d'homme, il vend surtout de la beauté et du rêve à la femme. Il lui propose de retrouver son statut perdu de déesse, qu'elle soit belle ou même laide. Mal fagotée, mal coiffée, disgracieuse, mais d'une beauté simple et diaphane, Denise attire l'œil de Mouret, qui l'embauche. Zola est toujours d'actualité. Mesquinerie, petites gens prêtes à écraser leurs congénères pour des miettes, folie du consumérisme, impunité des patrons. Ce bonheur dénonce des maux qui existent toujours de nos jours, probablement exacerbés. Mais à la différence de Peau de Bouille, il reste ici un peu d'espoir avec un Mouret finalement plus humain que ce qu'il y paraît et surtout une Denise qui s'avère être une icône de frugalité, de l'estime de soi et du respect des autres. Agnès Maupré a fait le choix de centrer son adaptation sur le personnage de Denise et en fait une lumière d'humanité dans le tourbillon du bonheur. Le parti pris de l'auteur est proprement lumineux et offre au roman d'amour que le bonheur de dame est aussi une seconde jeunesse. C'est donc une vraie belle réussite. Je vous propose d'écouter Agnès Maupré parler de son adaptation.
Dans cette époque où on se prend un peu dans la figure le retour de bâton de la société de consommation, j'ai eu très envie de me replonger dans les premiers pas de cette chose-là qui est le capitalisme et la surconsommation et de replonger dans le magasin foisonnant décrit par Zola qui donc raconte la naissance des grands magasins. Par le biais d'une petite vendeuse qui s'appelle Denise Baudu, qui est, à mon avis, malgré son nom, un des plus beaux personnages féminins de la littérature. Et du coup, je me suis plongée dans ce magasin plein de tissus où un homme omniprésent et omnipotent, Octave Mouret, le grand patron, régente une armée de vendeurs et manipule une armée de clientes pour les faire acheter toutes sortes de franc-freluches. Et comment, au milieu de ça, cette toute-puissance va être fragilisée par l'amour qu'il va éprouver pour une petite vendeuse modeste et tenace.
C'est terminé pour cette chronique BD. En attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, je vous laisse avec le titre de Grand Corps Malade, pas essentiel. Je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Je vais vais sortir de chez moi et marcher dehors. M'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi. Regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour. Alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Après quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus. Si pour faire la fête sont un bon potentiel, avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Walking in the midnight sun.
Ici c'est Héloïse et aujourd'hui je vais vous parler de La Servante Écarlate. On a déjà parlé de cette série dans l'émission, mais je viens de terminer la saison 3 et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Pour rappel, l'histoire de cette série magnifiquement produite, 10 fois récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globe, prend place dans un futur proche dans lequel une théocratie totalitaire et phallocrate a pris le contrôle des États-Unis et a attribué aux femmes des rôles sociaux très précis en fonction de leur fertilité. L'héroïne, June, américaine privée du jour au lendemain de toute liberté, est ainsi devenue une servante écarlate, une esclave destinée à donner une descendance aux dignitaires du régime. Mère d'une petite fille qui lui a été retirée pour être placée dans une autre famille de dignitaires que la sienne, June tente désespérément de la retrouver et rêve d'atteindre avec elle la zone libre canadienne où se trouve son mari. Le réalisme de cette série est si fort qu'il pourrait être prémonitoire. Elle crie aux femmes de ne pas relâcher leurs efforts pour conserver les droits dont elles disposent aujourd'hui. La série est d'ailleurs devenue un véritable phénomène. Citée dans les discours politiques, ses costumes, reconnaissables immédiatement avec les larges coiffes blanches et les robes rouges écarlates, sont régulièrement arborés dans les manifestations pour la défense des droits des femmes, notamment en matière d'avortement qui connaît actuellement une vraie remise en cause à travers le monde. Tout comme le mantra de la série « Nolite te bastardes carborundorum, ne laissez pas les salauds vous tyranniser ». Effectivement, en ces temps confinés, ce n'est pas forcément la série qui vous fera sourire. Mais je pense qu'elle vous donnera surtout envie de vous lever et de croire en l'espoir de jours meilleurs. Je sais, mon discours est un peu naïf, mais la puissance de cette série est telle que vous aurez envie de ne plus jamais vous laisser marcher sur les pieds et de trouver votre force intérieure, car oui, on est plus fort que l'on veut bien le croire. Elizabeth Moss, qui incarne June, est époustouflante. C'est une femme forte, déterminée, qui ira jusqu'au bout pour qu'on lui rende sa fille. J'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai eu envie de tout casser tellement cette série vous prend aux tripes de bout en bout, si bien que je ne regardais qu'un seul épisode par jour pour avoir le temps de digérer ce que je venais de voir. Mais je vous l'assure, cette série est exceptionnelle grâce à un jeu d'acteurs des plus prenants, allant de rebondissement en rebondissement avec une bande originale exquise, en particulier pendant l'épisode qui se déroule à l'hôpital, mon épisode préféré où tout va basculer pour June. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de la regarder. Ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire le livre de Margaret Atwood dont la série est tirée, livre écrit en 1985 et qui n'a jamais été autant d'actualité. Elle a sorti en 2019 Les Testaments, une suite qui se déroule 15 ans après La Servante Écarlate, ce qui annonce d'ores et déjà un futur spin-off, sachant que la série est renouvelée jusqu'à la saison 5, qui sera sans doute la dernière. La 4 étant actuellement en tournage, mais aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour cause de Covid. Pour finir, je vous offre un interlude musical. J'ai choisi ce morceau pour son titre et aussi pour son interprète que j'aime beaucoup. Donc je vous laisse avec Les Anges dans des robes rouges de Giorgio. C'était Héloïse et je vous dis à très bientôt sur Bang Geek Mafia.
Je revois les larmes d'une femme après une fausse couche. Quatre jeunes qui n'ont pas peur du froid se jeter dans l'eau de source. Un mec bourré hors gare éteint qui crie au secours. Le diable fait danser les anges dans des robes rouges. Suffit d'un rien pour faire souffrir les gens qu'on aime. Seul dans ma bulle, je regarde les gens vivre sans complexe. Comme si j'étais prisonnier des miens. Où j'habite, c'est mieux d'être manuel, foire à fistoler le destin. Plus aucune envie de faire semblant, ni d'utiliser le moindre vice comme pansement. J'ai répété, répété, répété. Des expériences qui ont toutes foiré. Je ne sais pas ce qu'il y a devant. Une chose est sûre, je cours après. Je me sens plus adulte maintenant. Que j'ai fait de mes rêves d'enfant une réalité. Rentrer chez soi sans croiser personne. 3h du mat, solo dans le faubourg. Tu crois qu'elle changera ta vie, cette petite voix. L'espoir se présente comme un ange dans une robe rouge. Sans maquillage, ni promesse. Aucun signe d'allégresse. Mais t'avances vers lui avec assurance et maladresse.
La pleine lune est jalouse. Quand on côtoie les anges dans des robes rouges, elles m'ont dit le monde est à nous, ces filles qui dansent comme les anges dans des robes rouges. Mais ça dure qu'un temps, qu'un jour violemment. Tu croiseras l'amour mais tu croiras plus. Et pourtant, on sait que la vie continue. La pleine lune est jalouse. Quand on côtoie les anges dans des robes rouges, elles m'ont dit le monde est à nous, ces filles qui dansent comme les anges dans des robes rouges. Mais ça dure qu'un temps, qu'un jour violemment. Tu croiseras l'amour mais tu croiras plus. Et pourtant, on sait que la vie continue.
J'ai l'impression que cette nuit je dormirai pas. Je pense à Fleury Mérogis, au jeune irresponsable. Marqué par un parloir avec Dida. Aucune chance pour lui d'observer une pluie d'étoiles. Les études n'ont pas fait nous des cinéastes. Trois quarts de mes amis sont à la recherche de taf. On serre les coudes, on lâche rien, rien du tout. Et sache que si t'as un plan, bah vous êtes plein sur le coup.
Comment j'en veux au monde entier. Nous avoir donné des envies pour les enterrer. On
On se retrouve pour s'ambiancer. Je côtoie aucune personne qui vit sans excès. J'essaie de ne jamais flancher en continuant de vivre pour l'amour du risque. On trouve pas le temps de se reposer. On se regarde tous de travers comme la tour de Pise. Entrer chez soi sans croiser personne. 3h du mat, solo dans le faubourg. Tu crois qu'elle changera ta vie, cette petite voix. L'espoir se présente comme un ange dans une robe rouge. Sans maquillage, ni promesse. Aucun signe d'allégresse. Mais t'avances vers lui avec assurance et maladresse.
La pleine lune est jalouse. Quand on côtoie les anges dans des robes rouges, elle m'ont dit le monde est à nous, ces filles qui dansent comme les anges dans des robes rouges. Mais ça dure qu'un temps, qu'un jour violemment. Tu croiseras l'amour, mais tu croiras plus. Et pourtant, on sait que la vie continue.
Radio G. 101.5 FM.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles.
At night I tell you people. When that cold, cold sun goes down.
Toute la vie des sociétés.
At night I tell you people. When that cold, cold sun goes down. I cry, I sigh, I wanna die. Cause my baby's not around. What's the matter, pretty baby? Tell me what's your daddy done?
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un acteur inquiétant, ingérable et parfois aux limites de la folie, Jim Carrey. Le plus subversif des comiques, revue de ses rôles les plus marquants grâce à Télérama. Jim Carrey est-il encore parmi nous? L'a-t-il jamais été? Superstar des années 90, créature protéiforme aux sourcils et à la mâchoire infiniment extensible, Jim Carrey a longtemps défié les lois de la pesanteur à Hollywood, utilisant son corps burlesque comme une arme de provocation massive. Suivirent des prestations dramatiques remarquées, puis lentement il s'est retiré. On le disait fini, lui, l'effet très spécial ringardisé par les images de synthèse. Certains parlaient même d'une santé mentale chancelante. Mais à 59 ans, le génie revient sous d'autres formes, en caricaturiste politique, artiste peintre et écrivain de ses vrais faux mémoires. Petit tour de quelques apparitions de l'une des plus brillantes météorites comiques de tous les temps. Au cinéma, Jim Carrey est arrivé comme un diable sort de sa boîte, sans crier gare. Le Canadien enchaîne en un an trois énormes succès à l'humour régressif. Le premier, Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber. C'est en particulier à The Mask en 1994 qu'il doit sa notoriété planétaire. Le film, qui cultive la filiation entre ses prodigieuses mimiques et l'univers de Tex Avery, utilise le numérique pour décupler les talents comiques de l'acteur. La scène où son personnage, timide employé de banque, se transforme en trublion tourbillonnant à face verte, peut être vu aujourd'hui comme une métaphore de la spectaculaire irruption de Carrey à Hollywood. Dans le premier Ace Ventura, il parlait avec ses fesses. Dans le deuxième, Ace Ventura en Afrique, en 1995, il est expulsé, nu et en position fœtale, de l'arrière-train d'un rhinocéros en plastoc. Le critique Adrien Denouette, auteur d'un formidable essai, y voit un retour vers le burlesque, ce stade anal de la comédie américaine qui ne dit pas toujours son nom. Pour faire craquer le masque social et ricaner de l'infantilisation de la société, quoi de mieux que ce visage comme un chaos d'affect incontrôlable, ces grimaces indécentes et ce corps érectile. Jim Carrey a beau être au générique de plusieurs films pour enfants, il est avant tout un grand acteur subversif. Après avoir découvert qu'il a grandi dans une émission de télé-réalité, sous les yeux de millions de téléspectateurs, Truman décide de s'arracher à cette parodie d'existence. Le Truman Show en 1998 ne se trompait pas. je suis le type qui a un jour levé les yeux pour voir tomber du ciel projecteurs et décors. Dans une récente interview au New York Times, Jim Carrey portait un regard lucide sur Hollywood et ses simulacres. Il disait son ambition d'aller au-delà de son étiquette de roi du gag. Dans la foulée du film de Peter Weir, ce désir d'exploration s'était porté sur des rôles plus sombres et dramatiques, avec Man on the Moon de Milos Forman et The Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry. Sur le tournage de Man on the Moon en 1999, Jim Carrey est la victime, l'instigateur, d'une sévère crise d'identité. Hors du plateau, l'acteur continue à jouer Andy Kaufman, l'étrange performeur comique des années 80 qu'il admire et interprète dans le film. 18 ans plus tard, le making-of du film, Jim and Andy, disponible sur Netflix, le dévoile aux frontières de la folie. Pour Adrien Denouette, Jim Carrey, mystificateur en chef, est alors le virus qui détruit le système de l'intérieur. La mégastar qui, quand on lui demande d'arrêter son cirque pour le bien du film, et donc du spectacle, persévère jusqu'à ce que la machine la recrache. Voilà, sans masque ni maquillage, Jim Carrey pour son nouveau show télévisé Kidding, sans blague. Et puis on vous conseille aussi Mémoire floue de Jim Carrey, écrit avec Dana Vachon, qui sortira au seuil le 4 mars. Et Jim Carrey, l'Amérique démasquée d'Adrien Denouette, aux éditions Façonnage. À bientôt pour une autre chronique cinéma.
Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim.
Way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é demais,
to give me. It's
é
too
pesado,
much. It's
não
heavy.
Tudo
There's
que
no
quer
peace.
Mim.
All you want from me isn't real.
Falling, 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 falling,
de se quitter, je vous propose d'écouter le titre du groupe Daft Punk Around the World pour leur rendre hommage puisqu'on vient d'apprendre qu'ils se séparent. Donc c'est un titre extrait de leur premier album, Homework, sorti en 97. On écoute ça tout de suite. C'est Bang Geek Mafia, votre émission Infoculture du mercredi. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je vous propose de nous quitter sur un morceau de musique, titre enregistré en live, aux Victoires de la Musique en 2015. Il s'agit de The Do, Despairing Over an Ecstasy, sur les ondes de Radio G, www.radio-g.fr ou 101.5. La radio qui fait le point.